Gloire à Dieu. Je me réjouis d'être avec vous dans une des plus belles réunions qu'une église puisse vivre. L'aboutissement de tout ce que nous faisons converge vers cela, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui s'engagent à suivre Jésus-Christ pour ce temps et pour l'éternité. Tout ce que nous faisons dans l'église, eh bien, a ce but-là. Au final, notre objectif, c'est que des hommes et des femmes passent de la mort à la vie et des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. J'aimerais signaler tout d'abord l'importance du baptême dans la vie de Jésus. Et nous pourrions lire, si vous voulez bien, vous avez vos Bibles sans doute, dans Matthieu chapitre 3, verset 13. Matthieu chapitre 3, verset 13. Quelques versets de la parole de Dieu, de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 3, verset 13. Je crois que si Jésus lui-même s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans, eh bien cela a aussi pour nous eh bien de la pertinence et de l'importance. Matthieu chapitre 3, verset 13, nous lisons ceci. « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Amen. Jésus a été annoncé par les prophètes, il a été annoncé par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu comme le sauveur du monde. Il est venu pour libérer les hommes de l'esclavage, libérer les hommes de la souffrance, libérer les hommes de la maladie, libérer les hommes d'un esprit chargé de culpabilité. Et ici, Jésus montre le chemin à suivre pour tout homme, pour toute femme, de toute génération. Je dirais que Jésus n'avait pas besoin de s'engager par les eaux du baptême. La Bible dit que Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Mais s'il l'a fait, c'est pour nous donner un modèle à suivre. En sorte, dira l'apôtre Pierre, que vous suiviez ses traces. Nous sommes appelés, bien-aimés, à marcher sur les traces de Jésus, le Fils de Dieu. Quelqu'un disait un jour, l'important n'est pas que l'homme ait marché sur la lune. C'est arrivé cela. Moi, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je l'ai vu à la télévision. L'important n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais l'important, disait quelqu'un, c'est que Dieu, dans la personne de Jésus, ait marché sur la terre. Jésus est venu à l'âge de 30 ans nous montrer le Père. Il est venu nous révéler la volonté de Dieu le Père. Et lorsque Jésus, eh bien, a confronté Jean-Baptiste, ses résistances et son opposition, dès l'instant où Jésus s'est engagé, où Jésus a pris ce baptême de Jean-Baptiste, ce baptême de repentance comme tous les autres, bien que lui ait été sans péché, encore une fois, il a fait cela pour nous servir d'exemple. La Bible dit que dès que Jésus eut été baptisé, le surnaturel de Dieu s'est manifesté. En passant, pour pouvoir sortir de l'eau, il a fallu qu'il y entre. Le mot baptême signifie baptisma, en grec signifie immerger, plonger, comme ce que les bien-aimés ont fait cet après-midi. Et dès que Jésus sortit de l'eau, l'Écriture dit que les cieux s'ouvrirent. Un miracle spirituel. Je ne crois pas qu'il était question ici de la météo. Je ne crois pas que tout à coup, le ciel chargé a laissé paraître un beau rayon de soleil perçant les ténèbres. Mais je crois qu'il s'est produit ici quelque chose de spirituel. Et c'est vrai que l'obéissance à la volonté de Dieu amène le ciel de Dieu à s'ouvrir dans un contexte particulier. Dieu dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » La Bible dit encore dans le livre du Deutéronome, un livre qu'il faut bien connaître lorsque nous traversons le désert, parce que juste après le baptême, la Bible dit que Jésus a été poussé, emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours par le diable. Et c'est clair que le baptême ne règle pas nos problèmes. Le baptême est un engagement qui nous amène à être sauvés parce que nous croyons au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Deutéronome 28, c'est important de le connaître, disais-je, parce que lorsque Satan va venir parler à Jésus en lui disant « Transforme ces pierres en pain dans le désert, satisfais ton besoin immédiat », Jésus va lui citer le Deutéronome. Il va lui dire « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » J'aimerais vous dire que pour vivre, vous n'avez pas seulement besoin d'aller chez Buffalo Grill comme nous sommes allés tout à l'heure entre midi et deux, et c'était très bon et c'était très bien, mais c'est pas suffisant parce que nous avons une âme, nous avons un esprit qui a aussi besoin d'être nourri, et ça il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous nourrir, nous satisfaire. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 28 dit que si tu obéis, j'ouvrirai pour toi, non, mon bon trésor, le ciel. Et je répandrai sur ta vie, sur ton périmètre de vie à toi, la pluie de la bénédiction. Un ciel ouvert, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de vivre sous un ciel ouvert. Moi, je suis un petit pasteur du Midi qui a été expatrié en Normandie, où il pleut vraiment, beaucoup. Ça fait du bien, le beau ciel bleu. C'est rare, ça arrive 2-3 fois par an, un ciel vraiment bleu, nickel, sans nuages. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est vert, et c'est beau, et la végétation se réjouit de cela. Mais vivre sous le ciel ouvert de Dieu. Il y a un deuxième miracle qui a pris place. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu. Il est descendu sous une forme corporelle comme une colombe sur la personne de Jésus. Oh, quel miracle! Quand un homme, une femme reçoit la douce mais forte présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et la première des choses que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient sur un homme, sur une femme qui ne connaît pas le Christ, eh bien c'est qu'il le convainc de péché, de justice, nous dit la Bible, et de jugement. Et en particulier parce que l'homme ne croit pas en lui. J'aimerais vous dire que la volonté de Dieu, c'est que vous passiez, vous aussi, par ce baptême, non pas de la repentance ici, nous baptisons nous au nom de Jésus-Christ, mais que vous passiez par ce principe spirituel qu'on appelle la repentance. Que vous puissiez laisser le Saint-Esprit révéler à votre cœur que vous avez besoin de la grâce de Dieu, besoin du pardon de Dieu. La seule chose qui peut donner la paix à un homme, qui peut donner la joie à un homme, c'est lorsqu'il a expérimenté par la grâce de Dieu le pardon de ses péchés, alors qu'il demande pardon à Dieu, qu'il se repent de ses péchés. L'homme peut connaître la délivrance, la libération, la culpabilité. L'apôtre Paul disait dans l'épître aux Romains, il n'y a donc maintenant, pas demain, mais maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez, bien-aimés, si vous acceptez Jésus dans votre vie, vous pouvez être libérés de la condamnation. La Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si Jésus a été livré et crucifié, pendu sur le bois maudit entre le ciel et la terre, ce n'était pas un accident de la cour judiciaire de l'époque, mais c'était bel et bien à cause de nos crimes. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est en mourant sur la croix que Jésus prenait le péché de l'humanité, le mien, le vôtre, et que Jésus nous réconciliait ainsi avec Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut nous révéler que nous sommes des pécheurs, mais il souhaite nous révéler aussi Jésus, son amour, sa grâce, son pardon. Jésus vous aime. Alléluia. Jésus t'aime. Le ciel veut s'ouvrir sur ta vie. Le Saint-Esprit veut descendre sur toi. Et ce qui est formidable, il y a un troisième miracle qui s'est produit ce jour-là, c'est que la voix de Dieu s'est fait entendre. Allô ? Vous m'entendez ? Mais est-ce que vous entendez Dieu vous parler ? J'ai été encouragé à travers tous les témoignages, ils ont tous été percutés par la parole de Dieu, par le message de l'Évangile. La Bible dit que Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Dieu se révèle, nous dit la Bible. Il se révèle au travers des perfections invisibles qui se voient comme à l'œil nu, c'est-à-dire au travers de la création. L'apôtre Paul dit, il n'y a qu'à regarder la création pour se dire, mais c'est pas possible. Ces choses-là ne sont pas le fruit du hasard. Vous savez ce que disait Einstein? Le hasard, c'est un train que Dieu prend quand il veut passer incognito. Le hasard n'existe pas. Je méditais, j'ai pas le temps, j'ai un quart d'heure, je suis à l'introduction, je vais m'arrêter. Mais je méditais sur Acte 8, un homme qui était allé chercher jusqu'à Jérusalem. Il était monté là-bas parce qu'on disait là-bas Dieu habite, ça vous dit quelque chose? Il avait fait un long pèlerinage depuis l'Éthiopie. Et là, il s'en revenait assis sur son char et il lisait à haute voix la parole de Dieu, le livre d'Ésaïe. Et là, comme par hasard, alors qu'il lisait dans le livre d'Ésaïe, Dieu lui envoie un évangéliste, Philippe, un peu comme nous ce matin, un pasteur qui dit « Seigneur, j'aimerais demain matin entendre prêcher sur Ézéchiel 47, et moi, à cause de cette prière, ce matin, j'ai dû bouleverser tous mes messages. » Vous auriez pu faire cette prière la semaine d'avant. Mais il n'y avait pas de hasard. À partir de ce passage-là de l'Écriture, l'évangéliste va lui parler du Seigneur Jésus-Christ. De qui parle-t-il ? De lui-même ou d'un autre personnage ? À partir de là, il va lui parler de Jésus, et de Jésus qui est mort, de Jésus qui est ressuscité, de Jésus qui est vivant. La Bible résume l'Évangile comme une bonne nouvelle. Vous aimez les bonnes nouvelles ? Il y a tellement de mauvaises nouvelles. Et cet homme, après avoir reçu le Christ dans sa vie, va dire, mais qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Si tu crois, c'est pas compliqué l'Évangile. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ils rencontrèrent de l'eau parce qu'on finit toujours par rencontrer de l'eau. Tôt ou tard, il y en a partout de l'eau, surtout en Normandie. C'est pas pour autant qu'il y ait beaucoup de plus de baptêmes. Mais des hommes qui sont bien disposés à obéir à la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il va être plongé dans les eaux du baptême et il va s'en retourner joyeux, joyeux. Quand on rencontre Jésus-Christ, on est joyeux. L'estampille, la marque du vrai évangile, c'est la joie. Dans les Actes des Apôtres, à chaque fois que des hommes et des femmes reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, et même dans leur ville, c'était le cas chez les Samaritains, la Bible dit, comme du temps prophétisé concernant Jésus, à cause de sa naissance, il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Moi, j'aime les grandes joies. Pas vous ? Eh bien, il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie à Jésus-Christ. Et là, j'ai dépassé pratiquement mon temps. L'Esprit de Dieu est une voix qui se fit entendre des cieux, ses paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que Dieu, au-delà de la personne de Jésus, Jésus qui est le premier-né, nous dit l'Écriture, d'entre beaucoup de frères, est-ce que le Saint-Esprit peut rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Et c'est très important de le savoir. Je dis, non pas seulement de le sentir, mais de le savoir. Parce que lorsque nous sommes dans le désert, et ça n'a pas tardé, le stage, l'épreuve, le test de 40 jours. La première des choses que le diable va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, si tu es chrétien, pourquoi tu passes par là? La voix du doute. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est le combat qui consiste à rester dans la vérité et à rejeter les mensonges de l'adversaire, du diable. La seule chose qui nous rend libres vraiment, c'est de demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. Dieu parle. Dieu te parle. Et ce qu'il te dit, c'est qu'il t'aime. Ce qu'il te dit, c'est qu'il a donné pour toi aussi son Fils unique sur la croix, afin que si tu confesses tes péchés, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras toi aussi sauvé, pardonné, purifié, pour ce temps et pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que le ciel est ouvert dans ce moment. Merci parce que le Saint-Esprit est là. Merci parce que ta voix, ta parole veut nous être communiquée, non pas pour nous condamner, mais pour nous dire que tu nous aimes. Seigneur, je te prie cet après-midi, afin que plusieurs dans ce lieu, dans ce moment, puissent aussi suivre tes traces, s'engager avec toi, marcher pour toi, dans la paix, dans la joie, dans la sainteté, dans la lumière. Merci de sauver, guérir, peut-être des bien-aimés qui sont là cet après-midi, malades, souffrants. Seigneur, je sais que tu es toujours celui qui guérit. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui délivre. Je te prie, mon Dieu, de délivrer les captifs, de guérir les cœurs brisés, d'ouvrir les yeux des aveugles et de communiquer ta grâce et ton pardon. Dans le nom de Jésus, nous te disons à toi la gloire, notre Dieu, notre Père. Amen.